Lituanie. Cette semaine, Alban Penaranda rencontre Ariane Ascaride. Ce soir, Marseille, 8 rue d'Alger.
Nom Ascaride, prénom Ariane, née à Marseille dans les années 50. Fille d'émigrés italiens, enfant de la République et d'une famille un peu étrange. Fille d'un chaos qui fut peut-être douloureux mais fécond aussi, il faut croire. Comédienne, sur les planches et à l'écran. Mariée à un cinéaste marseillais dont elle est le centre de la filmographie. Mère de deux filles, femme de gauche toujours, vit en banlieue parisienne, partout où son métier l'appelle, et dans la région marseillaise dès qu'elle le peut. Découverte et aussitôt adoptée par le grand public vers la fin des années 90 du XXe siècle. Place la fidélité au-dessus de tout, fidélité à l'amitié, fidélité à l'histoire des luttes pour les justes causes, fidélité aux idéaux d'hier, même quand ils sont en chute libre. Fidélité à sa propre histoire. Ariane Ascaride, bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que cette présentation lapidaire vous irait? La corrigeriez-vous? Y ajouteriez-vous quelque chose?
Alors, je suis très, très touchée, vraiment, sincèrement, très touchée par cette présentation. Je rétablis un tout petit peu. Mon père était de l'immigration italienne, ma mère était une Française, une Provençale. C'est tout, voilà, c'est ça.
L'affection que le public vous porte depuis un moment maintenant, la ressentez-vous? En recevez-vous des marques, des témoignages? Est-ce que les gens vous parlent? Est-ce que les gens vous abordent?
Ben, pas plus tard que tout à l'heure, à Monoprix. Il y a un monsieur qui est venu, j'étais en train d'acheter des avocats, vous voyez, un truc tout à fait... Il y a un monsieur qui est venu me voir en me disant « Mais vous êtes bien Ariane Ascaride, mais je veux pas vous déranger, je veux pas vous déranger. » J'ai dit « Oui, oui, c'est moi. Bonne journée. » Voilà, ça se passe tout le temps comme ça. C'est toujours très gentil, très attentif et très discret.
À quoi tient, à votre avis, que les gens vous sentent proche d'eux, qu'ils vous voient comme l'une des leurs?
Ben parce que j'ai joué beaucoup de rôles de filles qui font le ménage. Non, je crois que c'est vrai que dans le travail avec Robert, on a souvent, j'ai souvent joué des personnages de milieux populaires, simples, et effectivement, c'est ce que j'aime dans le cinéma de Robert, c'est-à-dire c'est qu'il donne la parole à des gens, comme il dit souvent, qui dans les autres films, sont des gens qui sont en second plan, un peu flous, et lui, il les met devant. Donc je crois que c'est ça, c'est ce qui fait qu'il y a les gens ont une proximité avec moi, et puis que plus le temps passe, c'est vrai, plus j'en ai jamais eu beaucoup, mais je me déleste de tout ce qui peut être vraiment l'apparence de l'actrice. Puis je parle avec tout le monde, dans le métro, dans le magasin, enfin je suis comme ça. Voilà.
Robert dont vous parlez, c'est Robert Guédiguian, nous en parlerons plus tard. Ariane Ascaride, vous nous accueillez chez vous toute cette semaine. C'est une maison en banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis, mais tout près de Paris, à Montreuil, pour tout dire, dans un quartier encore populaire. Comment la méridionale que vous êtes s'est-elle faite à la grisaille parisienne?
Elle s'est pas faite. Tout simplement, elle s'y est pas faite. Elle l'a acceptée. Après, comment dire, plus le temps passe, plus des fois je me balade dans Paris, même par temps couvert. Et il y a des lumières que j'aime énormément. Paris est une ville absolument sublimissime. Ce que je regrette un peu, parce qu'en fait, ça fait très longtemps que je vis à Paris. J'ai d'abord habité du côté de Ménilmontant, puis ça fait très longtemps que je vis à Montreuil. Non, je ne suis pas une bobo. Non, je ne suis pas arrivée il y a 10 ans. Il y a 30 ans que je suis ici. Et ce que je regrette un peu dans Paris, c'est que quand je suis rentrée au conservatoire, il y avait encore des quartiers où il y avait une population, dirons-nous, plus populaire, qui aujourd'hui s'est gentrifiée. Et puis voilà, j'allais dire c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. J'aurais bien aimé continuer à croiser des gens qui sont pas tous un peu dans le même uniforme.
La rue d'ici est-elle moins chaleureuse que celle de Marseille?
Elle fonctionne pas pareil, pas du tout pareil. On croit que la rue à Paris, enfin en tout cas à Montreuil. Alors Montreuil maintenant, faut savoir, c'est parce que c'est Montreuil maintenant, c'est devenu un peu un endroit où d'un côté il y a ce qu'on appelle entre guillemets, je n'aime pas cette expression d'ailleurs, les bobos, qui sont bien souvent des gens qui travaillent, qui sont souvent des intermittents du spectacle, ou bon, que ce soit des musiciens, des décorateurs, des acteurs, des réalisateurs, des peintres aussi, des artistes plasticiens, mais en même temps ils ont redonné vie Parce qu'ils font plein de choses, ils ont monté des associations, des machins comme ça, donc c'est bien. Et puis il y a une autre population issue plus de l'immigration africaine ou de l'immigration nord-africaine, mais j'ai pas la sensation, voyez-vous, que ça se mélange énormément. Voilà, c'est ça qui est un petit peu mon souci, si vous voulez. Bon. Moi, je connais des jeunes gens ici, puisque moi, j'habite dans une maison. En face de ma maison, il y a une cité, pas très grande, où je vois des jeunes gens qui sont devenus grands comme des asperges maintenant, qui étaient à l'école avec mes filles, et qui sont effectivement... je vois bien qu'ils ont du mal à avoir un boulot, je vois bien qu'ils traînent un peu le soir dans la rue, et je vois bien qu'ils sont toujours très gentils avec moi, voilà.
Ariane Ascaride, vous êtes née dans les années 50, à Marseille. À quoi ressemblait la rue d'Alger de votre enfance, là où vous habitiez avec vos parents et vos frères ?
Alors, la rue d'Alger, c'est un quartier du centre de Marseille. Hein. C'est un quartier qui n'a pas une identité incroyable. C'est près, pour les gens qui sont à Marseille, et pour les gens qui connaissent Marseille, c'est près de Notre-Dame-du-Mont. C'était une rue où, effectivement, on connaissait tous les voisins. Nous, on habitait le rez-de-chaussée, on avait un jardin et on connaissait les deux jardins à côté. Les gens, d'un côté, il y avait un monsieur qui était un immigré italien, qui était un monsieur formidable, qui s'appelait monsieur Mercantini. Et de l'autre, il y avait un monsieur qui s'appelait monsieur Bigaz et qui était un monsieur de droite avec lequel mon père se disputait régulièrement par-dessus le mur. Il s'insultait. Et c'est assez drôle d'ailleurs. Et puis, il y avait des petits commerces, mais il y avait dans une autre rue qui était la rue des Bons Enfants, qui est un nom que j'adore. Il y avait une épicerie où on vendait, ça faisait légumes, tout ça, et ça faisait aussi volaille. Et c'était une famille qui tenait cette épicerie, qui était là aussi. C'était deux frères avec leurs deux femmes, et un des frères avait épousé une Italienne qui s'appelait Carolina. L'autre était une véritable Provençale, s'appelait Marie-Rose. Eux, ils s'appelaient René et Noël. Et j'ai passé des heures dans ce magasin. En fait, tout le quartier passait des heures. Ma mère, dès qu'elle rentrait du boulot, elle prenait son panier parce que c'était pas le temps où il y avait les supermarchés. Donc, ma mère faisait les courses tous les jours. Donc, tous les soirs, j'accompagnais ma mère dans ce magasin. Et en fait, les courses duraient en moyenne 2h30. Et j'étais assise sur des rebords de cajou, d'orange ou d'oignon. Et j'adorais être là-dedans.
Qui étaient vos parents, Ariane Ascaride? Comment les décririez-vous?
Un peu marteau. En fait, c'est deux personnes qui, je pense, se sont trompées. Mon père a voulu absolument épouser une Française, parce qu'il voulait absolument s'intégrer, absolument être un Français. Je pense qu'il avait assez souffert de... Il avait passé toute son enfance dans un quartier à Marseille qui était comme une Little Italy. Et il avait ce complexe de l'immigré, et d'être issu de l'immigration, vraiment. Il a eu une enfance assez difficile avec un père assez très barjot, lui, par contre. Il y avait à cette époque-là, à Marseille, beaucoup de sociétés, ce qu'on appelait des sociétés d'excursionnistes. C'est-à-dire que les gens se retrouvaient le dimanche et partaient en excursion à pied, et voilà. Et mon père est entré par un ami, est entré dans cette association qui s'appelait Les Intrépides, quand même, faut quand même le faire. Dans laquelle il y avait mon grand-père maternel, ma grand-mère, ma mère et sa sœur. Ils se sont rencontrés là. Je pense que ma mère, du premier jour où elle a vu mon père, elle est tombée raide dingue. Et ils avaient 5 ans de différence, donc il arrivait, il avait 19 ans, elle en avait 14. Et il draguait tout ce qui passait, et ça marchait très bien parce qu'il était très beau. Et il avait ce charme latin. Après, il est parti au service militaire, qui a été, je pense, une grande souffrance pour lui, parce qu'on l'avait envoyé dans l'Est. Et quand il est revenu, ma mère avait grandi. Et il s'est dit, mais je pense, parce que c'était un homme très instinctif, mon père, il s'est dit que peut-être cette femme-là allait l'aider. Et c'est pas faux, parce que je pense qu'elle l'a aidé. Et puis, elle était, voilà, une Française. Alors, bon, les deux familles respectives... La famille italienne comprenait pas comment mon père épousait une Française. La famille française, ma grand-mère française, elle tiquait beaucoup que ma mère épouse un Rital. Ils se sont mariés, je pense qu'ils se sont vraiment mariés par amour. Et après, ben voilà, ils se sont trompés. Mon père était un homme qui avait beaucoup de mal avec la réalité. J'ai hérité de lui, mes frères aussi d'ailleurs, j'ai hérité l'imagination. Donc, mais tout son rapport au réel était très compliqué. Il a fait un métier qu'il n'avait pas du tout envie de faire toute sa vie pour faire manger sa famille. Et à côté de ça, il faisait du théâtre amateur, il écrivait, il refaisait la maison tout le temps, il changeait les murs de place, il faisait des trous dans les murs pour soi-disant que la lumière rentre dans toutes les pièces, mais en fait c'est parce qu'il disait toujours je veux entendre tout ce qu'ils disent, tout ce qui se dit dans la maison. Il était assez paranoïaque. Ma mère était un exemple d'ouvrière, de petite ouvrière qui avait un peu monté parce qu'elle était devenue employée de bureau avec une énergie complètement démoniaque, d'une immense intelligence et n'exprimait jamais ce qu'elle avait à l'intérieur d'elle. Elle était toujours dans le faire. Et mon père, par contre, lui passait son temps à être malade. Mais parce qu'il était rongé par des tas de choses, donc il était nerveusement assez fragile. Voilà.
Et votre mère changeait de couleur de cheveux toutes les semaines ?
Toutes les semaines, puisque mon père était coiffeur et pendant longtemps, et après est devenu représentant chez L'Oréal. Et donc, il était très fort en teinture. Et donc, ma mère changeait de couleur tout le temps.
Chez vous, dans votre famille, vous dites que c'était déjà une scène de théâtre. Mmh. La pièce qui s'y jouait, c'était quoi ? Un drame, une tragédie, une comédie ?
Les deux, mon capitaine.
C'était les trois ?
Les trois, même. C'était tout le temps comme ça. C'est-à-dire que ça pouvait passer de choses très dures à des choses très émouvantes et à de la franche rigolade, quoi. Parce que le truc qu'il y avait, c'est que mes deux parents avaient une très grande capacité d'humour. Et même, ils se foutaient de leur gueule respectivement, quoi. Même quand, pendant 10 ans, ils ont vécu dans une maison sans absolument s'adresser la parole. Mais ma mère faisait des grimaces dans le dos de mon père et inversement parlant. Et bon, moi, cette petite fille, parce que mes frères étaient beaucoup plus grands que moi, donc je me suis retrouvée seule à faire le go-between entre deux. Et il y avait des fois où ça me faisait rire, même si parfois ça me faisait pas rire du tout.
C'est une famille où régnait la fantaisie.
Énormément de fantaisie. Énormément de fantaisie dans tous les sens, c'est-à-dire le monde des fantômes, des fées, des djinns, des elfes. J'ai toujours vécu l'origine italienne et l'origine napolitaine, donc c'est la superstition. J'ai été élevée aussi avec ça. La superstition, je crois aux fées et aux fantômes. Oui, c'est vrai, j'y crois. Je suis complètement païenne.
Inutile de tuer son père, le monde s'en charge. Mm-hmm. C'est le titre d'un spectacle écrit et joué par votre frère, Pierre Ascaride, mm-hmm. lui-même comédien, metteur en scène, longtemps à la tête du théâtre de Malakoff. Ouais. Ce spectacle, vous l'aviez mis en scène, mm-hmm. vous, Ariane Ascaride. Qu'est-ce que c'était pour vous et votre frère, tout à la fois un règlement de compte et une reconnaissance de dette avec ce père qui aura occupé le devant d'une scène familiale agitée ?
Occuper le devant de la scène, c'est très juste. C'est-à-dire que, en fait, il s'est débrouillé pour qu'on soit tous les trois avec cette image paternelle qui est vraiment envahissante. Vraiment très envahissante. C'était normal qu'il me demande de le mettre en scène. Personne d'autre pouvait le faire. Parce que, effectivement, je pense que pour Pierre, c'était une manière de dire des choses à notre père qui était décédé. Pour moi, c'était une manière d'accompagner mon frère, mon grand frère, dans cette histoire, parce que c'est pas évident. Et c'était, je pense, aussi une manière à tous les deux, sans le dire jamais, sans se le dire en tout cas jamais, pas que c'était notre père et qu'on l'aimait beaucoup. Je pense que, en plus, si vous voulez, le rapport de notre père n'a pas été le même pour chacun d'entre nous. Moi, j'étais une fille.
Et la petite dernière.
Et j'étais la petite dernière. Il m'adorait, puis j'étais une fille. On pouvait toujours la marier. Vous voyez ? Il y avait un truc derrière qui était comme ça. Et donc, ce que je suis devenue était tellement différent que ce qu'il avait pu penser peut-être à un moment donné, que ça l'intriguait, ça l'amusait énormément. Je le faisais rire. Mais par contre, pour mes frères, je pense que ça n'a pas été simple. Parce qu'il y avait une pression, un poids, enfin le poids du père, quoi, tout simplement.
Ce père, donc pour le meilleur et en mettant de côté le pire, que lui devez-vous ? Qu'avez-vous reçu de lui en héritage, Ariane Ascaride ?
La capacité de savoir raconter des histoires. Mon père racontait les histoires d'une manière absolument magnifique. C'était un conteur, un inventeur. Il inventait des histoires. Et même, il inventait la réalité. C'est-à-dire qu'il allait vous raconter la réalité, mais sa vision de la réalité n'était pas vraiment juste, on va dire comme ça. Il la transformait, il transformait les choses. Il avait quelque chose un peu, presque j'allais dire, d'animal, d'instinctif. Il pigeait très vite, très très vite. Il pigeait très vite les situations, il voyait. Simplement, le truc, c'est que la lecture qu'il en faisait pendant un temps était complètement juste. Et puis, à un moment donné, ça partait en sucette, quoi, parce que il y avait la paranoïa qui entrait là-dedans, et voilà. Mais plus le temps passe, en fait, il me manque terriblement. Plus le temps passe, il me manque. Et il m'a quand même fait beaucoup rire. Vraiment, parce qu'il était très drôle quand il voulait.
Vous dites, je suis la fille de Peter Pan. Mm. C'est donc votre père, Peter Pan?
Parce que mon père est resté un enfant. Et c'est vrai que nous avons, mes frères et moi, ce rapport à l'enfance qui est très 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 fort. Et que, en ce qui me concerne, je n'ai absolument mais rien oublié de mon enfance. Je peux parler des odeurs, des couleurs, des sensations. Je peux vous dire comment j'étais habillée quand j'avais 10 ans ou quand j'en avais 8. Mes copains, mes devoirs, j'ai rien oublié.
L'idée, l'idéal communiste chez les Ascarides dans les années 50-60, quelle place cela tenait-il et à quoi ça ressemblait? En quoi cela vous a-t-il façonné?
Alors, c'était n'importe quoi. C'était juste n'importe quoi. Mon père a eu toujours un immense amour pour Staline. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que mon père a été, je l'ai appris beaucoup plus tard, mon père a été résistant communiste, et à un moment donné, mon père avait beaucoup de défauts, mais c'était un homme courageux et juste. Il a été assez vite exclu du Parti communiste à la fin de la guerre parce que il s'est rendu compte de certains agissements de certains, je précise bien certains, communistes. Au moment, vous savez, juste à la fin de la guerre, il y avait encore du marché noir, des machins comme ça. Et ça l'a rendu fou. Et donc, il a mis une panique monstrueuse. Et donc, on lui a demandé de s'en aller. Et en même temps, il devait récupérer les armes des anciens résistants et les donner, les rendre. Et il les a pas rendues. Donc, chez moi, il y avait des fusils, il y avait des Mauser, il y avait des choses comme ça. Il y avait plein de munitions qu'il a tout ressorti en mai 68. C'était quand même assez rigolo. Il y avait comme ça un amour, c'était très affectif, enfin plus que politique. Il y avait un amour sans nom pour l'armée rouge qui avait libéré Stalingrad, qui avait libéré Berlin. Et c'est vrai, parce que c'est quand même vrai. Et un amour immodéré pour les chœurs de l'armée rouge. J'ai été élevée au son des chœurs de l'armée rouge. Et en même temps, il n'y avait plus de militaires. Il y avait plus de militance, il militait pas, mais il y avait ce truc là donc j'ai été élevée du côté des pauvres, quoi. C'est tout. J'ai été élevée du côté des pauvres et de la haine du bourgeois.
Pourquoi votre père, d'origine napolitaine donc, pourquoi votre père ne voulait-il pas que l'on parle italien à la maison?
Parce que c'est l'époque où il faut l'intégration la plus totale. Parce que je pense qu'il a énormément souffert d'être... comme à Marseille, on disait, des Italiens, on les appelait des babi. Et c'était, les babi, c'était des voleurs, c'était des menteurs. Il devait y en avoir certainement, comme dans toutes les vagues d'immigration, si vous voulez, qu'il y a eu à Marseille, puisque Marseille, c'est une ville qui est faite de vagues d'immigration. Non, il voulait être français. Et puis aussi, je pense que c'est une époque encore où la République française est assez ouverte pour accueillir plus ou moins bien, je répète, plus ou moins bien, les vagues d'immigration. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais il y avait aussi, chez lui, il voulait être français. Et donc les enfants devaient parler français. Il ne nous a pas appris l'italien, et encore moins le napolitain. Il s'engueulait avec sa mère en napolitain, quelquefois, où il écoutait des vieux disques 78 tours qui faisaient des trajets incroyables. C'était des disques qui étaient enregistrés par la communauté italo-américaine à New York et qui après étaient renvoyés en France, où les autres les récupéraient. Donc lui, il écoutait ça, c'était des, je sais pas, c'était des sketchs, des machins comme ça, ça faisait mourir de rire, ils nous obligeaient à écouter ça, puis on comprenait rien, puisqu'on parlait pas, voilà. C'était surtout ce truc-là, quoi, fallait être français.
Une passion depuis l'enfance ne vous a jamais quitté, c'est la lecture, les livres. Qu'est-ce que c'était pour l'enfant que vous étiez? Un réconfort, une manière de prendre vos distances, d'échapper à une réalité parfois trop pénible, une manière de vous évader, de découvrir le monde?
Tout ça, c'est absolument tout ça. D'abord, j'ai adoré apprendre à lire. C'était génial d'apprendre à lire. Parce que ça me donnait une liberté individuelle. Je n'avais plus besoin. J'ai toujours été comme ça. J'ai beaucoup de mal à avoir besoin de quelqu'un d'autre. C'est un défaut. Parce qu'il faut savoir avoir besoin d'un quelqu'un d'autre. Donc, quand j'ai appris à lire au CP, j'étais une super bonne élève. Sortir après dans la rue, lire pharmacie, boucherie, boulangerie. Ça, c'est un truc que je vois bien parce que les enfants, ils continuent à faire ça quand ils apprennent à lire. Et j'ai le souvenir extrêmement précis de ce bonheur de puissance de savoir lire de les enseignes de magasins. Donc, c'est ça. Et puis, c'était... C'est effectivement la possibilité de m'abstraire d'un monde de situations des fois qui étaient un peu difficiles et puis de découvrir des histoires formidables. Je savais même pas que ça existait, quoi.
Et comment vous est venu ce goût pour les livres et la lecture, cette passion pour la littérature?
Au départ, je le dois à mon frère Gilles, qui est le premier à m'avoir offert des livres, dont un livre rouge dans la collection Rouge et Or, qui était l'histoire du Père Noël, la vie du Père Noël. Parce que moi, j'ai cru très longtemps au Père Noël. J'étais un peu... j'étais comme ça. Et d'autant plus que mon frère m'avait offert ce livre qui racontait la vie quotidienne du Père Noël. Donc je me disais, ça existe. Je pense que ça me réconfortait, parce que j'avais peut-être pas trop envie de grandir trop vite, quoi. C'était bien, quoi, de continuer à croire au Père Noël, et puis voilà. Et donc, je le dois à Gilles, et puis après, voilà, parce que en fait, comme mon père était complètement autodidacte, il y avait tas de livres qui traînaient...
C'était un grand lecteur aussi.
Oui, mon père lisait beaucoup, mais il lisait tout et n'importe quoi, et ma mère ne lisait pas, par contre. Et donc, il y avait des livres que je lisais, que peut-être j'aurais dû lire un peu plus tard, ou... Voilà, mais c'était... Et puis, ça sent bon, un livre. Enfin, moi, j'ai souvenir des livres de mon enfance. Enfin, il y a une odeur, ça sent bon. Et j'adore cette odeur. Voilà.
Et quelles lectures de l'enfance, de l'adolescence ont été importantes?
C'est La mare au diable de George Sand, bien sûr, que mon frère Gilles m'a offert pour un Noël, où j'ai découvert cette dame incroyable. Et puis, après, il y a eu... je sais jamais bien le dire, mais Huckleberry Finn, qui était alors là, c'était épatant. Épatant parce que moi, j'étais un peu un garçon manqué quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, quoi. Parce que je pense que j'avais eu deux frères avant et que, en plus, en étant garçon manqué, quand mon père m'a coupé les cheveux courts, c'est ça aussi qu'il faut dire. C'est que je ressemblais à un garçon et d'un coup, ma liberté de vie dans la rue, ça n'avait rien à voir avec ma liberté de vie quand je ressemblais à une fille. C'était génial d'être prise pour un garçon. Je pouvais courir dans la rue, je pouvais faire des tas de choses que quand on est un petit, on dit « Ah, quand on est une fille, on ne fait pas ça. » Donc, voilà, il y avait ça, il y avait... puis Oliver Twist, quoi. Oliver Twist, c'est tellement terrible, incroyable, je pleurais, voilà. Et c'est vrai que je me suis très souvent identifiée à des héros garçons quand j'étais jeune.
Sans verser dans un misérabilisme excessif, l'appartement était petit, l'appartement dans lequel vous viviez, et vos lectures se passaient un peu à l'étroit, Ariane Ascaride.
C'est pas qu'il était si petit que ça, parce qu'en plus il y avait un jardin, il était foutu n'importe comment surtout. À l'image de cette famille-là. C'est vraiment n'importe quoi. Mais c'est un peu, vous voyez, les immeubles qui sont en train de tomber à Marseille en ce moment. Je pense que la maison où on habitait, il va falloir que le propriétaire fasse un peu gaffe, parce que je pense que ça peut se casser la gueule dans pas longtemps. Mais comme il y avait très peu de rangement, mon père avait fabriqué en hauteur un très grand placard. Mais très grand, avec des portes coulissantes. Et donc, je prenais l'échelle et dans ce placard, il avait mis l'électricité et à l'intérieur de ce placard, il y avait des tas de vieux livres, des tas de vieux magazines, des tas de vieux illustrés et des tas de partitions parce que mon père adorait l'opéra, donc il y avait des tas de partitions d'opéra, mais très vieilles, brochées avec des couvertures. Maintenant, on achète ça, ça coûte la peau des fesses. Hein. C'était là, ça traînait. Et donc, moi, je prenais l'échelle et je rentrais dans le placard et je fermais le placard. Et je lisais, je mangeais, je faisais mes devoirs dans le placard. Parce que comme ça, j'étais en dehors du monde. C'était comme si je retournais dans un ventre, je ne sais pas lequel, mais pas obligatoirement celui de ma mère, ou dans lequel je pense que j'ai été bien, mais pas obligatoirement celui de ma mère, là, dans le placard. Et j'ai passé des années dans le placard.
Vous nous avez dit donc que vous étiez un vrai garçon manqué qui courait partout. Comment l'enfant que vous étiez vivait Marseille, ses rues, la mer toute proche de chez vous?
Alors, c'est une ville que j'adore et c'est une ville que je connais très bien parce que ma grand-mère française avait pour habitude à Noël, vous savez à Noël, il y a des crèches dans toutes les églises de Marseille. Donc ma grand-mère avait pour habitude de nous emmener faire la visite des crèches. Mais il était hors de question de prendre le bus. Parce que ma grand-mère française disait toujours « Si j'avais été un homme, j'aurais été chasseur alpin. » Elle adorait marcher. Donc, j'ai arpenté Marseille dans tous les sens pour aller voir ces crèches. De Notre-Dame-de-la-Garde à Saint-Barnabé, à Saint-Julien, en revenant aux Accoules, dans le centre de Marseille. Je connais, enfin maintenant, peut-être elles ont changé, mais je connaissais toutes les crèches de Marseille. Et en même temps, c'était des spectacles, quoi. Parce qu'il y avait la crèche à la lumière noire, il y avait la crèche où il y avait de la musique, il y avait la crèche avec les santons géants, il y avait la crèche avec les santons plus petits, il y avait la crèche animée. Enfin, c'était des concours, quoi, quand même, hein. Et après, comme j'étais effectivement une enfant assez solitaire, que mes parents travaillaient, à partir de l'âge de 10 ans, j'avais les clés de ma maison, je m'en allais. Et je marchais, seule, dans Marseille. Et j'ai toujours adoré ça, et c'est un truc qui m'est resté parce que je continue à le faire. Par exemple, c'est une ville dans laquelle je peux marcher la nuit, je n'ai jamais peur. Absolument jamais. Et je faisais un truc, j'allais à la gare Saint-Charles, et à ce moment-là, il y avait des tickets de quai. J'achetais un ticket de quai, et je m'asseyais sur le quai où il y avait les trains qui partaient pour Paris. Et je regardais les gens qui montaient dans ces trains-là parce que je me disais, ils doivent avoir un truc spécial pour monter dans un train qui va à Paris.
Merci Ariane Ascaride. Et demain, nous irons avec vous à Paris.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Alban Penaranda avec Ariane Ascaride. À voix nue, réalisation Rafik Zenin, prise de son Cyprien Creton, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.